Celui-ci sera reçu par Philae qui le renverra. Son étude permettra de trouver des informations sur la composition de la comète. Cosima analysera la composition des grains de poussière émis par la comète afin de déterminer s'ils sont organiques. Giada mesurera la vitesse et la masse des grains de poussière émis par la comète. Midas étudiera la taille, la forme et le volume des particules autour de la comète. Miro déterminera quels sont les principaux gaz, la vitesse de dégazage et la température du sous-sol de la comète. Osiris est un ensemble de caméras haute résolution cartographiant la comète, comme NAC, Narrow Angle Camera, Caméra Petit Angle et WAC, Wide Angle Camera. Rosina cherchera quelle est la composition de l'atmosphère et de l'ionosphère de la comète, ainsi que la vitesse des particules gazeuses ionisées. RPC étudiera la structure de la coma interne et l'interaction de la comète avec le vent solaire, et surveillera l'activité cométaire, mesurera les propriétés physiques du noyau. RSI mesurera la masse, la densité et la gravité du noyau. De plus, il définira l'orbite de la comète et étudiera la coma. Virtis cartographiera la nature des solides et la température à la surface. Cet instrument sera utilisé afin de localiser les sites d'atterrissage. L'atterrisseur Philae fixe se présente sous la forme d'un cylindre partiellement hexagonal d'un mètre de diamètre pour 80 cm de haut et d'une masse totale de 100 kg, dont 21 kg d'instruments scientifiques. La structure est construite en fibre de carbone munie d'un revêtement d'aluminium. L'énergie électrique est fournie par des batteries et des panneaux solaires. Philae sera largué à 1 km d'altitude. Il déploiera ses 3 pieds. En raison du manque d'informations sur la consistance de la surface, plusieurs chaînes indépendantes adaptées à un type de sol sont installées. Pour éviter que l'atterrisseur ne rebondisse, ces 3 pieds sont équipés d'absorbeurs de choc. En raison du changement d'objectif de la mission, les absorbeurs de choc ont été modifiés pour pouvoir être efficaces sur le nouvel objectif qu'est la comète Churyumov-Gerasimenko. En effet, celle-ci étant 10 fois plus massive que l'objectif prévu au départ, Virtanen, l'atterrissage sera plus rapide. À l'approche du sol de la comète, Philae utilisera, en fonction de la dureté du sol défini préalablement par Virtis, 2 harpons et des vis qui lui permettront de se fixer solidement à la comète. Philae est également muni d'un système propulsif le plaquant au sol. La descente sera une étape critique de la mission. Si elle se fait trop rapidement, Philae risque de rebondir du fait de la faible gravité régnant à la surface. Le noyau cométaire étant actif, il peut dégazer et déstabiliser Philae qui devra alors utiliser un moteur placé sur le dessous ou une roue libre pour se remettre sur le bon chemin. De plus, la grande distance qui séparera la Terre de l'atterrisseur empêchera tout contrôle direct. Les communications feront un aller-retour en 80 minutes, la séquence sera donc entièrement automatique. Philae est recouvert de panneaux solaires fournissant 9 watts de puissance, couplés à des batteries rechargeables. En raison des variations de l'exposition au soleil causées par la rotation du noyau, du possible givrage des panneaux solaires ou du brouillard créé par les poussières, des piles lui assurent une autonomie minimale de 5 jours. Les données acquises seront stockées sur 12 mégabits de mémoire, puis transmises à l'orbiteur par un transmetteur bande S d'1 watt de puissance, qui les fera parvenir à la Terre. En utilisant ses pieds, il pourra pivoter ou s'incliner. L'atterrisseur a été conçu par un consortium de 8 pays européens sous la direction de l'Agence spatiale allemande, DLR, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande et l'Italie. La charge utile de l'atterrisseur est composée de 10 équipements scientifiques. APXS et analysera les particules alpha et les rayons X afin de déterminer la composition du noyau de la comète. SIVA, d'origine franco-suisse, est composée de 6 appareils photographiant la surface et d'un spectromètre analysant les échantillons. Chaque caméra pèse 100 grammes et la grande partie des composants, qui doivent résister à des températures comprises entre moins 100 et 50 degrés Celsius, sont fabriqués en titane. CONCERT sera utilisé en parallèle avec le second instrument identique de l'orbiteur pour déterminer la structure interne du noyau. COSAC analysera les gaz et analysera les molécules organiques complexes. Ptolémée mesurera les relations isotopiques d'éléments légers. MUPUS est un ensemble de détecteurs mesurant la densité, les propriétés thermiques et mécaniques de la surface. ROLIS, caméra CCD haute résolution, enregistrera des images lors de l'atterrissage. ROMAP mesurera l'intensité du champ magnétique de la comète et les interactions avec le vent solaire. SD2 formera un trou de 20 cm de profondeur pour y collecter des échantillons, analysés par la suite. SESAM est composé de 3 instruments qui étudieront la propagation des ondes sonores à travers la surface, les propriétés électriques et les poussières retombant à la surface. 2 canaux du réseau Deep Space Network de la NASA sont attribués à la sonde spatiale Rosetta afin de pouvoir communiquer avec la Terre. Suite à l'échec d'Ariane 5 et K et à la révision de tous les systèmes lanceurs en décembre 2002, la mission initiale qui aurait dû être lancée en janvier 2003 et qui avait comme objectif final la comète Virtanen avec l'étude en chemin de 146 Wa et 4979 Otawara a été repoussée. L'objectif final a donc dû être changé. Il était cependant possible, selon le CNES, de le conserver en utilisant un autre lanceur, comme le Proton russe. L'option choisie a été de conserver Ariane 5, il a donc fallu déterminer un nouvel objectif. Le 14 mai 2003, le comité des programmes scientifiques de l'ESA a fixé pour Rosetta un nouveau but, la comète Churyumov-Gerasimenko. Le lancement de la sonde Rosetta eut lieu le mardi 2 mars 2004 à 7h17 et 44 secondes temps coordonné, après deux reports dus à un problème technique et à des conditions météorologiques défavorables, depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française, par la fusée européenne Ariane 5G+, lors du vol 158. Ce fut le premier envol de la version G+ d'Ariane 5. Le plan de vol était très différent de ceux connus jusqu'alors. Les étages d'accélération à poudre furent allumés pendant 139 secondes avant d'être largués. L'étage principal cryotechnique a été éteint 9 minutes et 50 secondes après le décollage, avant d'être largué 6 secondes après, à 173,4 km d'altitude. Dès lors a commencé une phase balistique sur une orbite d'attente elliptique, dont l'apogée et le périgée se situent respectivement à 4000 et 45 km d'altitude. Après 1 heure, 45 minutes et 47 secondes, le dernier étage, l'EPS, étage à propergole stockable, a été allumé pendant 17 minutes, imprimant à Rosetta suffisamment de vitesse pour échapper à la gravité terrestre. La séparation a finalement eu lieu à H plus 2 heures, 13 minutes et 30 secondes, et la mission Ariane Espace est achevée à H plus 2 heures et 50 minutes. Après le récent succès de Mars Express, l'Europe se tourne maintenant vers l'espace lointain avec une autre mission fantastique, a déclaré le directeur général de l'ESA. Le 15 mars 2004, les astéroïdes que la sonde observera durant son voyage ont été sélectionnés. Il s'agit de Steins et Lutetia. Afin de gagner en vitesse et changer de trajectoire, Rosetta va utiliser le principe de l'assistance gravitationnelle sans consommer la moindre goutte de carburant. L'assistance gravitationnelle repose sur l'utilisation volontaire de l'attraction d'un corps céleste pour modifier la vitesse et la trajectoire d'une sonde ou d'un autre engin spatial. Le 4 mars 2005, Rosetta frôle la Terre, en anglais Earthwing By, abrégé ESB. Une anomalie a été constatée par les ingénieurs de l'ESA. La sonde a accéléré plus de ce qui était prévu, alors d'1,8 mm par seconde. La vitesse de la sonde est mesurée grâce aux stations au sol. Celle-ci a été confirmée par la NASA. Le cas de Rosetta n'est pas unique. On peut citer dans le même genre les sondes Neher-Schumacher et Galileo ayant comme Rosetta utilisé la Terre pour une manœuvre d'assistance gravitationnelle, respectivement en 1998 et 1990, qui ont accéléré de 4 et 13 mm par seconde de plus que les prévisions. En novembre 2007, le Minor Planet Center a lancé une alerte prévenant qu'un astéroïde, dénommé 2007 VN84, allait croiser la Terre à seulement 5000 km. Ce communiqué officiel a permis de réquisitionner l'attention des astronomes pour qu'ils puissent évaluer le risque réel de collision avec la Terre. Il s'est avéré que 2007 VN84 n'était que la sonde Rosetta en approche de la Terre dans sa phase d'accélération par assistance gravitationnelle. Un nouveau communiqué a été émis, annonçant que la désignation 2007 VN84 doit être retirée. Le 25 février 2007, deuxième assistance gravitationnelle avec Mars, une manœuvre qui comporte des risques puisque pendant 15 minutes, la sonde est passée de l'autre côté de Mars, empêchant les panneaux solaires de fournir l'aide d'énergie et bloquant toute communication. La sonde passe dans l'ombre de Mars à 1h52 temps universel. La sonde, 2 minutes après, elle est à 250 km d'altitude. Le contact est repris à 2h06. Cependant, Rosetta reste dans le noir jusqu'à 2h19. Les instruments ont été activés pour photographier la surface et l'étudier. Le 13 novembre 2007, Rosetta a effectué son second survol de la Terre, ESB2. Son orbite s'allonge et sa période est désormais d'exactement 2 ans. L'accélération obtenue fut conforme aux prévisions. Le 1er septembre 2008, les instruments ont été allumés. La sonde a survolé Steins à 800 km le 5 septembre 2008 à 17h45 UTC, avec une vitesse relative de 8,6 km par seconde. Cependant, l'instrument NAC, une caméra haute résolution, s'est mis en mode sauvegarde quelques minutes avant le survol. Il n'a donc pas fonctionné avant de se remettre en mode nominal quelques heures plus tard. Afin de remettre Rosetta sur le bon chemin, une manœuvre de correction de trajectoire, en anglais Trajectory Correction Manoeuvre, abrégée TCM, a été effectuée le 22 octobre. À 13h51 UTC, la sonde a effectué une rotation de 90 minutes afin de s'orienter correctement vers la Terre. Puis, à 15h26, les quatre moteurs de la sonde ont été allumés pour finalement être éteints à 15h27. La manœuvre aura duré exactement 1 minute et 27 secondes. Le 13 novembre 2009, la sonde a utilisé l'attraction de la Terre pour sa dernière assistance gravitationnelle. À 7h45 40 secondes UTC, Rosetta est passée à 2481 km de l'île de Java en Indonésie avec une vitesse de 13,34 km par seconde. Cette technique de vol spatial a permis de gagner 3,6 km par seconde. Aucune anomalie n'a été constatée au niveau de la vitesse. Afin de corriger une légère erreur de trajectoire, les moteurs de la sonde ont été allumés le 23 novembre et ont fourni un delta V de 58 cm par seconde. Durant la première semaine de décembre, le modèle de test Electrical Qualification Model, abrégé EQM au Centre Européen d'Opérations Spatiales, fut placé en hibernation, afin de valider le futur essai en vol de janvier 2010. Pour préparer la mise en hibernation prévue en 2011 et après les essais sur le modèle de qualification électrique en 2009, un test en vol d'une semaine a été effectué. Pendant une semaine, Rosetta a été mise dans les mêmes conditions que l'hibernation réelle. 21 lutèces d'un diamètre d'une centaine de kilomètres sera frôlée par la sonde le 10 juillet 2010. Rosetta passera à 3000 km de l'objet à près de 15 km par seconde. Tout comme pour le précédent survol, les instruments seront allumés quelques jours avant le début de la manœuvre. Pour des raisons d'économie d'énergie, la sonde sera placée en mode dormant, Deep Space Hibernation Mode, abrégé DSHM, de juillet 2011 à janvier 2014. Ce mode dormant signifie qu'aucune communication avec la Terre ne sera établie durant cette période. La sonde devrait arriver à la proximité de la comète Churyumov-Gerasimenko vers le mois de mai 2014 et entrera en orbite autour d'elle au mois d'août de cette année. Elle cartographiera pendant environ 6 mois la comète avant de larguer Philae pour qu'il y atterrisse. Cette période permettra de trouver un endroit plat où l'atterrisseur pourra se poser. Pendant toute la durée de l'hibernation, il n'est pas prévu de contact avec Rosetta. S'il devait y en avoir un, ce serait pour s'assurer qu'elle répond. En janvier 2014, la sonde sera réactivée et sera mise en orbite en mars autour de la comète, ayant traversé 6,5 milliards de kilomètres au travers du système solaire en 10 ans. Cette phase, comparable à un lancement, demande la vérification de chaque sous-système, les contrôleurs ignorant l'état de chacun d'eux après 2 ans sans contact. En novembre 2014, à près de 650 millions de kilomètres de la Terre et à plus de 135 000 km par heure, Philae sera déposé sur la comète après quelques mois de préparation. La durée de vie de l'atterrisseur est estimée à 5 jours minimum. Après 18 mois passés en orbite autour de la comète, la mission s'achèvera en décembre 2015, bien qu'une prolongation est possible si l'état de la sonde le permet encore. Il y a 4,6 milliards d'années, le système solaire était encore une nébuleuse protosolaire constituée principalement d'hydrogène, d'hélium, de glace et de silicate. Sous l'effet d'une condensation et d'un réchauffement de la nébuleuse, le Soleil s'est allumé. Les éléments volatiles fondent en raison de la double augmentation de la température. Les autres éléments chimiques s'associent, formant des molécules sous forme gazeuse à proximité du Soleil et sous forme de glace à grande distance. Les silicates et métaux situés à moins de 450 millions de kilomètres du Soleil donnent naissance aux planètes telluriques. Les éléments plus légers situés plus loin forment des planètes gazeuses, géantes et peu denses. À plus de 10 unités astronomiques du Soleil, à la frontière du système solaire ont subsisté des glaces et des poussières. Petit à petit, elles se sont agglomérées pour former des cométésimales d'une dizaine de mètres, puis en noyaux de plus de 100 mètres à quelques kilomètres. Depuis, ces comètes sont restées figées. Ce sont donc des témoins de l'évolution et de l'histoire du système solaire qui nous permettront de mieux le comprendre. De nombreux systèmes développés pour Rosetta ont été repris sur Mars Express, lancé en juin 2003 en direction de Mars. C'est le cas de l'ordinateur de bord, des transpondeurs, de l'antenne faible gain, des gyroscopes au laser, des accéléromètres des centrales de navigation inertielles et l'articulation des panneaux solaires. Ces éléments représentent 80% de la sonde. Afin de réduire le coût de 4 autres missions, la plateforme de Rosetta a été réutilisée sur Mars Express, lancée en juin 2003 sur Venus Express, partie vers Venus en avril 2006, sur BepiColombo Colombo qui devrait être lancée en août 2014 à destination de Mercure, et sur Solar Orbiter, sonde destinée à l'étude du Soleil. De nombreuses molécules sont dites chirales, c'est-à-dire qu'elles existent sous deux formes, énantiomères, dextrogyres et lévogyres égales, en quelque sorte à leur image dans un miroir. Les acides aminés utilisés dans la vie telle que connue actuellement sont chiraux. Cependant, la vie n'utilise qu'une seule forme, l'évogyre. Elle est dite homochirale. Aussi, la découverte de molécules qui, en plus d'être d'intérêt biologique, sont homochirales, pourrait indiquer la présence de vie. La Question que se posent aujourd'hui les biologistes est pourquoi la vie a-t-elle choisi la forme lévogyre plutôt que dextrogyre ? D'autant plus que l'expérience de Miller, une synthèse d'acide aminé censée reproduire l'atmosphère primitive terrestre, donne un mélange d'autant de molécules lévogyre et dextrogyre. Dans la météorite de Murchison, découverte en 1969 en Australie, un énantiomère est 15% plus abondant que l'autre, ce qui semble montrer que l'homochiralité de la vie a été favorisée par une surabondance de lévogyre provenant de météorites. L'atterrisseur Philae étudiera les échantillons et permettra peut-être de comprendre l'origine de l'homochiralité du vivant.